Bonjour à chacun, chacune. Un scorpion avait besoin de traverser une rivière. Alors il s'adresse à une grenouille et lui dit « Est-ce que tu peux m'emmener sur ton dos ?» La grenouille le regarde et lui dit « Hors de question ! Je te connais ! Je sais que tu vas monter sur mon dos et que tu vas me piquer pour me tuer. » Alors le scorpion de répondre « Mais non, je suis pas bête. Si je faisais ça, je mourrais noyé comme toi. » La grenouille lui dit « Bon, alors allons-y. » Le scorpion monta sur le dos de la grenouille. Arrivé au milieu de la rivière, piqua la grenouille, lui injectant son venin mortel. « Mais qu'est-ce que tu as fait, malheureux ?» lui dit la grenouille. « Maintenant, tu vas mourir, toi aussi. » Le scorpion de répondre « J'y peux rien, c'est ma nature. » Rien ne peut changer ma nature. Mes amis, nous disons que nous avons revêtu une nouvelle nature. Que les choses ne sont plus obligatoires, nous ne sommes plus, la Bible dit, obligés de pécher. Et ce matin, j'aimerais avec vous regarder la première épître de Jean. Gardez l'histoire en tête. Première épître de Jean, juste avant la toute dernière qui est Jude et avant l'Apocalypse, donc tout à fait à la fin de votre Bible. J'avais pensé lire le texte avant, mais vu le temps qui me reste, ça va être un peu court. Alors, on va franchir le texte ensemble. Nous lirons au fur et à mesure ce texte. J'aimerais juste donner, pour la compréhension, un tout petit peu de contexte. Nous sommes à la fin du 1er siècle. 1 Jean chapitre 1 Jean 2. Nous sommes à la fin du 1er siècle. Des loups cruels se sont introduits dans les églises, sans épargner le troupeau, des scorpions. Qu'il s'est élevé au milieu des assemblées des hommes qui ont enseigné des choses mauvaises pour entraîner les disciples après eux. Et je fais référence au texte de Paul dans Actes 20 qui dit « Des loups vont rentrer dans l'église, vous les anciens, surveillez. » Jean sait ces choses. C'est pourquoi il a rédigé premièrement son évangile et cette première épître pour affermir les chrétiens dans leur foi, consolider leur assurance. Il leur dira « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez, afin de vous affirmer, de vous établir. » Que vous avez la vie en Jésus-Christ. Si l'évangile de Jean contient des signes de la manifestation de Dieu, de Jean, de Jésus, son épître, elle, établit des critères, des principes, des choses que nous pouvons suivre, des bornes qui font référence et qui nous permettent de distinguer le vrai du faux. Distinguer le vrai du faux. Ces loups, ces personnes qui ont enseigné de mauvaises choses, les gens les ont écoutées, mais malheureusement, n'ont pas vérifié. Et ce matin, j'aimerais parler de trois critères que nous trouvons dans cette deuxième épître. Le premier critère, le critère doctrinal, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu en chair. Deuxième critère que nous regarderons rapidement aussi, le critère moral. Le critère moral, c'est l'obéissance au commandement et la pratique de la justice. Obéissance, premièrement, la foi, deuxièmement, l'obéissance, et le troisième, appelé critère social. Critère social, c'est l'amour pour les frères, malgré les différences. Aimer quelqu'un malgré que nous soyons différents. Ces trois vertus dont Paul parle aussi, hein, la foi, l'obéissance et l'amour, sont trois vertus, trois critères que nous ne pouvons pas séparer. Nous ne pouvons pas dire « j'ai la foi, je n'aime pas les frères ». Et c'est ce qu'on va lire. Nous ne pouvons pas dire « j'aime Dieu, j'aime pas les frères ». Nous ne pouvons pas dire « j'aime les frères et je ne fais rien pour eux ». Et donc, trois critères qu'on lit tout au long de ce petit chapitre et j'aimerais partager rapidement. Tout d'abord, dans les versets 3 à 6. 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 6, donc là je ne vais pas faire l'économie de lire. Par cupidité... Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui a marché lui-même. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. On peut noter dans un premier temps que les croyants d'aujourd'hui ne sont pas différents des croyants de la fin du premier siècle. Les traits distinctifs entre l'Église et le monde n'apparaissent pas tellement à cause d'un évangile souvent bon marché, le Lidl de l'évangile, où la sainteté n'est pas l'objectif à atteindre. Et la sainteté est surtout rarement vécue. Cet état de choses est humiliant pour Dieu. Nous disons que nous sommes ses enfants, mais au niveau de la pratique, nous lui désobéissons. Et la Bible nous appelle à nous repentir. Ces trois lettres écrites aux églises, c'est cette lettre, dont chacune à l'exception d'une, nous sommes appelés à nous repentir. Repentez-vous. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui-même a marché, nous dit le verset 6. Marcher à l'exemple de Jésus. Marcher comme lui, ça ne veut pas dire marcher avec une croix, même si la Bible nous dit que celui qui me suit prenne sa croix. Renonce à lui-même. Accepte de revêtir cet homme nouveau. Christ demeure notre modèle, le modèle à suivre. Et nous avons les évangiles pour le contempler, pour voir ce qu'il a fait lui. 4 évangiles, avec 4 angles différents, qui parlent de la même personne, qui nous brosse ce portrait magique, magnifique, transformateur, mais tellement embarrassant dans notre monde et dans notre culture, au point qu'il ne doit pas être annoncé publiquement, qu'il ne doit pas être vécu publiquement, qu'on aimerait qu'il soit ramené à notre chambre, mais plus dans l'espace public. Jésus n'a pas vécu dans les sous-sols de la synagogue, dans les cavernes. Sa famille n'est pas restée dans la crèche, l'étable, où on l'avait assigné, où il avait trouvé refuge pour entrer dans ce monde. Jésus a vécu publiquement. Jésus a été vu des foules, contemplé. Quand on l'a crucifié, mes amis, on ne l'a pas crucifié en douce. On ne l'a pas trempé dans un baril d'acide. On ne l'a pas fait disparaître de la planète en disant « la NSA est passée par là ». Mais on l'a crucifié publiquement. Et quand il est ressuscité, il n'est pas resté en secret, il s'est montré à ses disciples, à ceux qui croyaient en lui, à ceux qui étaient déçus. Jean va employer trois verbes qui vont revenir plus de 40 fois dans tous ces textes. Savoir, connaître et reconnaître. Savoir, connaître et reconnaître. Comment sait-on que nous sommes croyants? Comment sait-on que nous croyons en Jésus-Christ? Comment sait-on que nous connaissons et que nous reconnaissons? Comment reconnaît-on les enfants de Dieu? Ça vous est jamais arrivé de regarder à quelqu'un et de dire « Oh, lui doit être chrétien ». Je vous avais raconté cette petite histoire que je compte brièvement, où un jour je me suis inscrit pour un séminaire à l'Institut biblique de Genève, et où la secrétaire me dit « Mais vous partez d'où, monsieur Renier ?» Alors je dis « De Paris ».« Oh ben, c'est simple, il y a le professeur de l'Institut biblique qui part aussi de Paris. » Je dis « Bah, ça va être simple, il n'y a que 19 millions de personnes à Paris, je vais certainement le reconnaître. » Et en fait, je vous avais raconté déjà cette histoire qu'il était assis derrière moi dans le train. Et que je regardais souvent cet homme et cette femme qui lisaient des livres un peu semblables à ceux que je lisais, notamment un livre d'Alfred Kuhn, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'ils livrent un livre, voilà, en train de lire. Hein. Et je les entendais parler, je les ai même entendu un moment prier, j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc vous êtes bien, oui. J'avais cette personne qui était là. Et j'ai eu quelques heures dans ce TGV pour regarder, pour voir, pour connaître et pour reconnaître. Et nous sommes dans ce monde, mes amis, pour être vus, connus et reconnus. Mais nous sommes là aussi pour faire connaître le Christ. Les faux docteurs, à la fin du siècle, réclamaient une connaissance supérieure, prétendaient être illuminés pour rabaisser les chrétiens. Jean admet le principe d'une connaissance authentique de Dieu. Puisque l'Ancien Testament, l'Évangile le proclame. Dans Jean 17, je te prie afin qu'ils te connaissent. Qu'ils connaissent la parole. La vérité, c'est qu'ils te connaissent. On dit que nous connaissons Jésus-Christ. En principe, on dit que nous croyons en Christ. Le problème, c'est que souvent, nous ne croyons pas Christ. Le diable, les démons, croient que Dieu existe. Et la Bible dit qu'il tremble. C'est pas la connaissance, c'est pas savoir que Dieu existe qui change nos vies. Mais la première chose, c'est de croire. Le critère absolu que Jean emploie, le verbe, c'est garder. Verset 3. Il est dit, je reprends. 1 Jean, il veut systématiquement se remettre sur Pierre, lui, voilà. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous avons connu. Verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait. Garder sa parole, s'attacher à l'auteur de la parole. La connaissance du chrétien dans l'obéissance est soulignée par l'amour de Dieu. Je garde, j'exprime, je connais l'auteur. M'amène à la perfection. Qui s'exprime dans la joie, qui l'exprime, comme Pierre l'a souligné ce matin, la louange, et qui se manifeste par le don de soi. La Bible nous donne ce critère extraordinaire que quand on aime, on donne. Et la Bible va plus loin que ça, elle ne dit pas simplement qu'on donne, mais qu'on se donne. Christ s'est donné pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. C'est se donner. C'est pas donner et regarder ce qui me reste. C'est se donner. Les verbes employés au niveau de la relation avec Christ, c'est connaître, versets 3 et 4, être en lui, verset 5, demeurer en lui, verset 6, marcher comme lui, verset 6. C'est intéressant que ça commence à nous déconnecter de juste croire. On connaît par cœur Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, ce verbe croire nous va tellement bien. Oh, mais je crois. Je crois en lui. Mais ça va plus loin. Jean explique, le connaître, être en lui, demeurer, marcher. Ah! C'est un verbe actif, aimer. C'est un verbe qui nous entraîne. Il n'y a rien de forcé, Pierre l'a relu aussi tout à l'heure, comme l'offrande. Dans notre attitude, mais une expérience qui nous permet de gravir la maturité. Et on va le voir plus loin. Premier critère, l'obéissance. Le premier commandement que Dieu a donné, c'est pas le sujet de ce matin. Mais il a dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Mais pourquoi faire? Mais ça sert à quoi? Mais ça sert à rien. L'important, c'est de croire. C'est pas Paul qui a inventé le baptême. C'est pas Pierre qui a inventé le baptême. C'est pas les Juifs qui ont inventé une façon de faire. C'est Jésus même, c'est sa parole. C'est le premier commandement. Après le fait de croire, de témoigner par un acte de baptême. Combien d'entre nous résistons? Oh ouais, mais faut témoigner publiquement, puis ça sert à rien. Que dit le texte? Connaître, être en lui, demeurer, marcher comme lui, obéir. C'est le commandement du Christ. C'est son ordonnance. Deuxième critère, l'amour. Verset 7, verset 11, jusqu'au verset 11. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous ai écrit, mais un commandement ancien que vous avez dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui est en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il sait où il va, parce que ses ténèbres ont aveuglé ses yeux. Un auteur dont j'ai oublié le nom cette semaine et que je lisais a dit, c'était pas un livre de lui, mais au moins une citation, il a dit, le plus grand mal que vous pouvez faire à vos ennemis, c'est de les aimer. Le plus grand mal que vous pouvez faire à quelqu'un qui ne vous aime pas, c'est de l'aimer. Fait réfléchir, non? Quand j'ai commencé à voir le plus grand mal, j'ai dit, qu'est-ce qu'il va dire? Le plus grand mal, c'est de faire du bien. L'obéissance à l'amour. Jean n'oppose pas l'obéissance et l'amour. Au contraire, il les rattache. Car ce sont deux compagnons, non pas deux ennemis. Comme pour le prouver, l'écrivain commence par dire « bien-aimé ». Bien-aimé. Vous vous rappelez, j'avais utilisé ça il y a quelques semaines. Nous remarquons que le commandement d'aimer est présenté comme à la fois ancien et à la fois nouveau. Deutéronome chapitre 6, tout au début de la Bible. Genèse, Exode, l'ombre, Deutéronome. Chapitre 6. Et verset 5, il est dit, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Ouh ! Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Voilà le texte. ancien. Aimer son prochain comme soi-même. Nouveau parce que le Seigneur Jésus l'a expressément prononcé dans la chambre haute, après le départ de Judas. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean là-bas brossait le portrait de trois types d'hommes. Premier type d'homme, il va dire au verset 9, « Celui qui prétend être dans la lumière, celui qui fait paraître. » Nos langues affirment beaucoup de choses, mais nos actes prouvent le contraire. Ta vie parle tellement fort que tu ferais mieux de te taire. Ta vie parle tellement fort que ce que tu dis n'est pas vrai. Ce genre de comportement est à bannir, selon Jean. La deuxième catégorie de personnes, celui qui aime, demeure dans la lumière et aucune occasion de chute, verset 10, n'est en lui. Celui qui aime est assuré qu'il n'y a pas ici de trappe. Le croyant fait du bien aux autres en manifestant son amour par des actes et manifeste une harmonie avec sa pensée. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a choisi de faire sonner une harmonie avec des gens différents, où chacun joue sa partition, mais où le son qui sort est le bon. Pas de note dissonance. Troisième personne qu'il décrit au verset 11, celui qui est, et le verbe haïr, son frère est dans les ténèbres, il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il est difficile de penser que la haine puisse habiter le cœur d'un chrétien. Mais une antipathie, une amertume, je passerai pas mes vacances avec lui, finit par nous défaire, nous amener sur la mauvaise route. Les malentendus entre frères sont l'œuvre de Satan. Mais les exhortations à l'amour fraternel, au support mutuel que nous trouvons dans la Bible montrent que nous avons des responsabilités. Obéir. Aimer n'est pas un choix. Aimer est une façon de vivre. Aimer, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Quand il voyait les foules, oh non, ils viennent encore me demander. Quand il était avec ses disciples, mais vous êtes infernal quand même. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Dieu a fait toutes ces choses par amour. Pour nous, pour que nous ayons un accès direct au ciel. Obéissons à Dieu aussi dans le domaine en taillant à vif notre propre volonté, nos inclinaisons personnelles, nos a priori. Luc 9, 23 que je citais tout à l'heure avec « Que celui qui me suive prenne sa croix » consiste à renoncer à nos intérêts et à considérer ceux des autres comme étant avant. Alors Jean va faire une parenthèse que je vais courir quand même parce qu'elle est importante dans ce chapitre, dans les versets 12 à 17. Voilà ce qu'il dit. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le père. » Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris aussi, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde, et le monde passe et la convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il s'adresse, là encore, à différentes catégories d'hommes. Tout à l'heure, on a eu ces trois hommes, et là, on en a cinq. On a tout d'abord « petits-enfants », traduit de façon différente. La première, c'est la nature entre le parent et les enfants. Le deuxième, c'est la minorité de l'enfant. Nous devenons enfants, bébés. Je présume que quand on a un bébé, ceux qui en ont un, on ne lui demande pas d'aller nous sortir la voiture du garage, d'aller faire les courses, de tenir les comptes ou d'écouter nos discours philosophiques. Tout d'abord, le petit enfant est subordonné. Il aime et il est aimé. Et c'est pour ça que Jean utilise souvent cette expression « bien-aimé », parce que Dieu nous aime. Les petits-enfants sont avant tout conscients du pardon, de leur péché et de leur lien avec le Père. Et puis, il va parler des pères, l'âge intermédiaire, car le but de la conversion est de tendre à la maturité, de devenir des pères. Paul va s'adresser aux chrétiens, il va dire « Vous devriez en être au steak, mais malheureusement vous en êtes au lait, vous êtes encore des enfants, des bébés. Et je peux vous donner que des choses déjà pré-mâchées. » Le chrétien adulte est appelé père parce qu'il est capable de transmettre la vie, vie spirituelle, vie physique. L'Écriture mentionne les caractéristiques du père. Ce ne sont pas ceux qui ont des révélations extraordinaires, des expériences sensationnelles, une supériorité écrasante, une connaissance qui fait d'eux des élites. Non, les pères sont simplement des gens qui ont progressé dans la communion avec le Père. Celui qui est dès le commencement, dit le verset 13 et 14. Ils sont devenus adultes spirituels parce qu'ils se sont, selon Colossiens 2, enraciné et fondé en Jésus-Christ. Enfin, Jean aborde les jeunes gens. Étape importante. En effet, si l'on n'arrive pas à assumer cette condition, il n'y a pas de père. Et l'Église reste peuplée ou d'enfants ou de vieillards, auxquels il faudra sans cesse enseigner les premiers éléments de la doctrine du Christ. Qualification des jeunes gens, ils sont engagés. Verset 14. Ils combattent l'ennemi, le malin, et ils en sont vainqueurs. Pour quelle raison ? Verset 14. Parce qu'ils sont forts et que la parole de Dieu habite en eux. Mes amis, nous avons une progression d'enfant à père, en passant par cette étape intermédiaire de jeunes. Et c'est souvent le conflit des générations. Ceux qui sont arrivés à maturité regardent ceux qui sont en processus. Et ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et de mon temps, vous connaissez les discours. Alors, dans les versets 15 à 17, il dit, il cible l'ennemi. Et il en cible trois. Le monde. Jean présente l'ennemi intérieur, le péché. L'ennemi extérieur, le malin. Et l'esprit et l'ennemi environnant, celui qui est là, le monde. Le monde est un puissant ennemi de l'Église qu'il cherche à contaminer, à affaiblir, à désarmer. L'exigence de l'Écriture, elle, est absolue. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, verset 15. C'est l'un ou l'autre, et non plus l'un et l'autre, comme on voudrait nous le proposer aujourd'hui. Gagner le monde. Qu'est-ce que le monde ? C'est la condition présente des affaires humaines, organisées dans un système mauvais, qui bâtit sans Dieu, l'exclut de ses pensées, de ses entreprises, et finalement s'oppose à lui. Ni les choses qui sont dans le monde. Nous sommes appelés à aimer Dieu totalement et sans réserve. C'est la même chose avec, en principe, nos épouses. Je t'aimerai tant que tu feras ce que je te demande, que tu seras belle et que tu n'auras pas pris 30 kilos. Mais quand tu commenceras à être laide, qu'il te faudra un kilo de peinture pour que ton visage ressemble à quelque chose, alors je chercherai ailleurs. L'engagement qu'on prend, c'est pour la vie. Avec Dieu, notre amour doit être total, jusqu'au bout. Parce que lui n'a pas reculé. Nous étions ennemis et il nous a fait le plus grand mal qu'il pouvait nous faire. Il nous a aimés. La Bible nous encourage et Jean nous encourage à fuir les convoitises. Au verset 16, celle de la chair, celle des yeux, l'orgueil de la vie. La première convoitise naît simplement de notre nature pécheresse qui est en nous. La deuxième vient des regards. Le troisième, la gloire. Nous voulons être glorifiés. Ah, heureusement que je suis là. Seigneur, merci de m'avoir permis d'être là. Merci de m'avoir devancé. Merci de ta grâce. Enfin, je termine avec ce dernier critère, la foi. Après ses instructions sur la vie chrétienne, Jean reprend le fil de sa pensée. Au verset 18, il dit quoi ? Il dit, « Petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été les nôtres, ils se seraient demeurés avec nous, mais celui qui est arrivé afin qu'il manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui qui est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils non plus, n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils, a aussi le Père. L'homme impie. Celui qui refuse, celui qui ajoute. Une claire distinction entre ce qui est enseigné justement, entre l'hérétique et le vrai croyant. Les premiers, après avoir fréquenté les assemblées chrétiennes, en sont sortis parce qu'ils étaient incrédules, opposés au message et opposés à l'auteur. Les seconds, ayant cessé par la nouvelle naissance, font la différence entre la vie et la mort. La nature et l'hérésie, la connaissance. Je sais, j'en sais trop, et c'est moi qui prends la place de Dieu. Alors, je vais terminer, je zappe un peu parce qu'il est largement le temps. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas de besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus, éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Si la parole de Dieu demeure en nous, dans le croyant, celui qui demeurera dans le Fils, dans le Père, échappera au séducteur. Nous ne pouvons opposer que la parole de Dieu. Je crois, je pense, j'ai l'impression, je ressens. Ce sont souvent ces mots qui nous égarent. La parole de Dieu dit, est-ce que nous la connaissons, cette parole? Est-ce que nous connaissons l'auteur? Est-ce que nous obéissons? L'Écriture et l'Esprit se complètent, ne se contredisent pas. Ils sont les garants de notre vie chrétienne. Avant de terminer, une autre petite histoire, après celle des scorpions. Pendant la guerre, deux soldats ont vu arriver les avions ennemis. Ils ont vu un camion, ils ont dit « on va vite se réfugier sous le camion ». Alors ils ont laissé passer la DCA, les bombes qui sont tombées à droite et à gauche, et se sont regardés en « ah, on a eu de la chance de se mettre sous ce camion ». Et en fait, leur grande chance, c'est qu'aucune bombe n'ait touché le camion. C'était un camion de dynamite. Où avons-nous mis notre sécurité ? Sur quelque chose qui va un jour nous exploser au nez ? Des mensonges, des hérésies ? Des coutumes ? Ou alors, dans cette assurance, que Jésus est celui qui est venu pour moi, pour vous. Il est venu dans une étable. Il a grandi comme nous, il a été tenté comme nous, il a résisté au péché, et ensuite il a accepté d'aller lui mourir, lui sur la croix, à ma place, pour que je puisse avoir la vie. Alors, y a-t-il un critère dans ma vie qui me monte ? L'obéissance ? L'amour ? La foi ? On ne peut pas les séparer. Ces trois critères qui font partie de notre vie. Alors mes amis, je prie que Dieu nous incite à aller de l'avant. Et que peut-être si ce matin on dit « ah, il y en a un, je ne suis pas vraiment au point. » Si les trois doivent habiter dans ma vie, alors Seigneur aide-moi. Prions juste quelques instants. Seigneur, merci pour cette lecture rapide, cursive, de ce deuxième chapitre de l'épître de Jean. Merci pour les paroles que tu nous as rappelées ce matin. Et Seigneur, nous avons bien conscience ce matin que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais que nous sommes sauvés par cette grâce que tu nous donnes. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes de persévérer dans cette grâce, de persévérer dans ton amour, afin de faire front à l'ennemi, afin de ne pas être désarçonné, de partir sur la mauvaise route, d'abandonner en route, de quitter notre récompense, celle que le diable voudrait nous ravir. Et je veux juste prier, si l'un d'entre vous, si l'une d'entre vous, ce matin, pense que sa foi est défaillante, pense que quelque chose lui manque, Dieu nous a tout donné. J'aimerais juste que je prie pour lui ou pour elle, très rapidement, en disant, pasteur, j'ai besoin de reconsidérer mon obéissance, j'ai besoin de peut-être reconsidérer mon amour. La foi, elle est petite, j'aimerais qu'elle grandisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait, juste ce matin, là où il est, sans regarder les autres, juste après avoir écouté ce message, se dire, Seigneur, aide-moi. Est-il quelqu'un qui voudrait que je prie pour lui, pour elle, oui, que Dieu vous encourage, oui, que Dieu vous encourage. Seigneur, merci pour ces quatre amis qui ont levé la main. Tu sais où en est leur amour, leur foi, leur espérance, leur assurance. Je te les remets ainsi que toute ton assemblée ici. Merci pour l'assurance que nous avons en toi, qui ne défaillera pas. Et merci pour les progrès que tu veux nous donner de faire, les uns avec les autres, et surtout, nous envers toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.